Europe Soir, le 18-20, Julien Bugier.
Avec la suite du débat des grandes voix du mardi, 18h50, toujours Charles Villeneuve à mes côtés, Guylaine Ottenheimer, rédactrice en chef à Challenge, et le politologue Pascal Perrineau. On parle maintenant donc de l'affaire dite Karachi, avec l'ouverture aujourd'hui du procès de l'ancien Premier ministre Édouard Balladur devant la Cour de justice de la République pour des soupçons de financement occulte de sa campagne présidentielle, c'était en 95, via des rétrocommissions illégales sur des contrats d'armement. Il est jugé aux côtés de son ancien ministre de la Défense, François Léotard. Alors, question à vous trois. Un procès qui intervient, mais on va expliquer pourquoi, 25 ans plus tard, quand un simple justiciable, quand un simple citoyen est jugé quelques mois ou quelques années seulement après avoir commis un délit. Est-ce que ça n'est, pardon du mot qui est peut-être un peu fort, mais est-ce que ça n'est pas insupportable pour l'opinion publique ?
C'est insupportable. Enfin, rassurez-vous, il y a beaucoup de justiciables qui attendent des procès et qui attendent 4, 5, 6, 7 ans avant que ce soit instruit, renvoyé, une expertise, et ça prend un temps fou, etc. La justice française n'a pas assez d'argent.
Mais est-ce que c'est propre aux affaires politico-financières ?
25 ans, c'est inadmissible. On a commencé à s'intéresser à cette histoire après l'attentat de Karachi, grâce au procès intenté par les familles des victimes. C'est une histoire très compliquée. Vous comprenez, les diamants de Giscard, c'est facile. Ou les appartements de Juppé, c'est facile. Tout le monde comprend. C'est comme quand vous avez volé 3 000 euros. Tout le monde comprend comment vous les avez volés. Quand il y a des comptes avec des rétrocommissions, avec plein de noms qu'on ne connaît pas, c'est compliqué à expliquer.
Précisons un élément important quand même pour que chacun comprenne pourquoi ça a mis tant de temps, c'est que c'est une plainte déposée par les familles des victimes de l'attentat de Karachi, le 8 mai 2002, qui avait coûté la vie à 15 personnes, dont 11 Français travaillant à la construction de sous-marins pour la DCNI dans le port pakistanais. Donc c'est cette plainte
qui est arrivée 15 ans après,
qui a relancé l'affaire et qui a mis en accusation l'ancien Premier ministre.
L'attentat de Karachi, ça mettra des années pour savoir exactement qui a commis cet attentat. Vous voyez, pendant des années et des années, les Pakistanais, les services secrets jettent du fumigène là-dessus.
Mais ça pose quand même la question de la vitesse d'une procédure judiciaire.
Le sang contaminé, 20 ans.
Non, mais on ne peut pas comparer. On ne peut pas comparer le droit commun et juger des actes d'État. Ce n'est pas la même histoire, surtout quand intervient, si vous voulez, dans la procédure, un pays comme le Pakistan. Ou diligenter une instruction judiciaire au Pakistan, notamment après un attentat qui concerne les services de l'État, les services de renseignement, quand on sait de toute façon qu'une grosse commande d'État, comme c'était le cas, qui dépend de ce qu'on appelle aujourd'hui Naval Group, et c'était la Direction de Construction Navale Internationale, la DCNI, c'est très difficile. C'est l'une des raisons pour laquelle
ça met tant de temps.
Les commissions rogatoires, ça prend du temps.
Il y a beaucoup d'obstacles.
Il risque gros dans cette affaire, Édouard Balladur.
Il s'agit d'établir et de prouver, parce que jusqu'à présent, l'instruction n'a pas apporté la preuve, réellement, si vous voulez, du fait qu'il aurait, en quelque sorte, réintroduit dans sa campagne présidentielle des rétrocommissions qui viennent...
Il y a des contrats d'armement.
Qui viennent de ces contrats d'armement. Bon, ce qui a, si vous voulez, ce qui a éveillé le soupçon de la Cour de justice de la République, où siègent, il faut le rappeler, 3 magistrats professionnels et 12 parlementaires, ce qui a éveillé les soupçons, ce sont les intermédiaires, c'est-à-dire des éléments dits clés qui permettent les rétrocommissions. Et c'est le cas, justement, on retrouve, comme dans l'affaire du financement libyen...
Notre ami Takieddine.
On retrouve Ziad Takieddine et, évidemment, un autre, son partenaire, qui est mi-syrien, mi-saoudien, parce qu'on retrouve toujours les mêmes filières dans ces affaires-là.
Pascal Perrineau.
Oui, ce qu'il faut noter, c'est que ces intermédiaires, qui sont au nombre de 6 pour l'instant, ils ont tous écopé, parce que eux, ils ne sont pas anciens ministres, donc ils n'ont pas droit à la Cour de justice de la République. Ils ont été jugés par des tribunaux correctionnels et ils ont été assez sévèrement condamnés.
Très lourdement.
Voilà, très lourdement condamnés. Bon, ils font appel, donc on verra comment ça se passera en appel. Mais là, il faut bien comprendre qu'il y a d'un côté, j'allais dire, pour ces intermédiaires, la justice ordinaire, et pour les ministres, la justice de la Cour de justice de la République, qui a été créée en 1993, dont on attendait beaucoup. On se disait, ça ne verra pas tous les travers de l'ancienne juridiction, la Haute Cour de justice, et dont on est très déçu. parce que dans la plupart des décisions prises par la Cour de justice de la République, les peines, là, n'ont pas été très lourdes. Elles ont été, en général, très légères.
Oui, Ottenheimer.
Oui, on se souvient Christine Lagarde dans, dans l'affaire Tapie, juste coupable de négligence. Voilà. D'ailleurs, ce serait intéressant de voir ce que statue cette Cour par rapport à ce que statuait la justice civile, non seulement à l'encontre des intermédiaires, mais du directeur de cabinet d'Edouard Balladur et du directeur de cabinet de François Léotard.
Non, conseiller spécial.
Oui, conseiller spécial, qui ont quand même mécopé de 5 ans, dont 2 ans avec sursis.
C'est ça. 5 ans ferme, dont 2 ans avec
sursis. Non, mais vous disiez que ce qui a attiré l'attention de la Cour de justice et de la justice, c'est les intermédiaires. Mais pas seulement. Il y a quand même eu quelque chose qui a beaucoup attiré l'attention des juges. C'est ces 10 millions de francs versés en coupure de billets de 500 francs à l'époque, versés dans les comptes de la campagne au lendemain de l'échec du premier tour, et dont la seule justification, c'est la vente de t-shirts. Bon, tous en billets de 500... tous ça le même jour arrivés, c'est quand même très bizarre.
Et ça va durer plusieurs semaines, on aura l'occasion évidemment de vous en parler dans Europe Soir. Merci à tous les trois d'avoir animé à mes côtés les grandes voix du mardi. Dans quelques secondes, le journal Isabelle Millet et le débat du Club des Idées. Ce soir, on parlera de cette idée de créer un revenu minimum spécial jeune. Vous verrez pourquoi. À tout de suite.